Bienvenue dans le podcast Marketing Mania. Cette semaine, j'accueille Grégory Lagrange. Grégory est un copywriter qui défend une approche très minimaliste, très simple de la vente. C'est la suivante, c'est un email de vente par jour, tous les jours. Et il a développé des techniques de storytelling, il a développé des techniques pour générer des idées, pour écrire ses emails. Et selon lui, c'est l'approche qui est la plus efficace. Et donc, dans cet épisode, on discute de cette stratégie de email quotidien. Comment est-ce qu'elle s'applique dans différents business et pourquoi est-ce qu'elle est aussi efficace pour lui. Sans plus de transition, et après cette intro qui est particulièrement courte selon les standards habituels du podcast Marketing Mania, je vous propose d'écouter ma conversation avec Grégory Lagrange de Lifestylers.fr. Salut Greg et bienvenue sur le podcast.
Salut Stan, comment tu vas? Fait plaisir de revenir.
Ouais, très bien. Donc t'étais passé sur le podcast en 2015, c'était probablement un des premiers invités, je dirais un des cinq premiers invités du podcast Marketing Mania. C'est un épisode où on avait pas mal parlé de ton parcours, qui est d'ailleurs vachement intéressant. J'invite les gens qui l'ont pas écouté à aller se renseigner un peu là-dessus, parce qu'il y avait des bonnes anecdotes dans cet épisode-là sur ton parcours. Dans quelle mesure est-ce que ton business a changé depuis 2015? Parce que j'ai l'impression qu'en allant sur ton site, en voyant un peu ce que tu fais, j'ai la sensation que t'as gardé le cap que t'avais à l'époque.
Ouais, c'est pas faux. Je fais toujours, enfin, moi je pars du principe que c'est beaucoup sur la régularité qu'on obtient des résultats assez dingues. Et quand tu trouves un truc qui fonctionne, tu vas pas faire évoluer tant que ça finalement. Mes activités sont toujours les mêmes. Je partage sur Lifestylers énormément de choses, notamment sur le copywriting et l'emailing, qui sont mes plus grosses spécialisations. Je fais toujours le marketing, je me charge toujours du marketing de 3 clients, que je devais déjà faire à l'époque. Je suis pas très bon avec les années, mais ouais, si, ça correspond. Je coach toujours quelques entrepreneurs tous les mois. Ouais, non, il n'y a pas énormément de changements. À côté de ça, j'ai lancé il y a un peu plus d'un an maintenant un site sur le marché anglophone pour un petit peu tester, voir s'il y avait moyen de faire des beaux trucs à ce niveau-là.
Et alors
Terrible, franchement chouette. Beaucoup de taf de préparation. C'est un système complètement automatique qui est basé sur mes techniques d'emailing où on envoie un mail par jour, sauf qu'au lieu de les envoyer en mode broadcast, tu sais, tu vas créer un nouveau mail et tu vas l'envoyer lundi, un nouveau mail et tu vas l'envoyer mardi, comme je fais sur Lifestylers ou comme je fais pour les clients dont je me charge du marketing. Là, c'est une gigantesque séquence de 180 et quelques mails, 3 produits, et puis là, le but, c'était de mettre tout ça en automatisation et puis de voir avec du media buying ce qu'il y avait moyen de faire sur cette thématique-là.
Donc, c'est un site qui parle de marketing aussi, de copywriting?
Non, rien à voir, de jardinage.
Okay.
truc pour lequel je me suis passionné il y a quelques années, tu vois, quand je suis en Bretagne, je ne suis pas tout le temps, mais en fait, j'avais repris une baraque où il n'y avait rien de planté, donc je me suis intéressé au sujet, histoire d'agrémenter un peu le jardin, tu vois. Puis je me suis passionné pour les jardins japonais, notamment, je trouve ça super chouette. Et donc, toujours chercher un petit peu de l'info, voilà, ce qui est très dur en ligne. Et puis j'ai remarqué qu'il y avait vraiment des choses à faire, qu'il y avait énormément, c'est vraiment une thématique sur laquelle il y a énormément de ressources en ligne, tu vas cliquer, tu vas découvrir des trucs sur les fleurs, les végétaux, tel truc, tel machin, mais quasiment personne qui t'enseigne comment créer un beau jardin de A à Z sans les trucs chiants, toi, sans trop d'entretien, sans y mettre un bras ou ton PEL, sans tous les trucs que les gens veulent pas, sans attendre des années.
Du coup, comment tu vends un produit sur le jardinage? Comment est-ce que tu cadres ce besoin-là? Parce qu'il y a un côté un petit peu, ça peut être difficile de vendre des produits sur quelque chose qui est un hobby. Je vois pas mal de gens avoir un peu de mal à définir vraiment quel est le besoin et pourquoi est-ce que les gens vont payer, avoir un peu de mal à vendre. Comment est-ce que tu fais pour toi, qu'est-ce que tu vends et quel est le besoin que tu as identifié sur le côté jardinage?
Je m'adresse pas uniquement, enfin, si c'est un hobby, mais je m'adresse justement aux gens pour qui c'est plus qu'un hobby. Les gens qui se passionnent pour le truc, mon ciblage il est là. C'est en gros, je suis parti finalement de ce dont je me suis rendu compte quand moi j'ai commencé et que j'ai vraiment cherché de l'information pour arriver à faire un beau jardin. Et je me suis rendu compte, toi, qu'il y a énormément de ressources en ligne, mais qui aident pas concrètement, toi. Qui n'aide pas concrètement quand tu es dans ton jardin à toi et que tu te dis « Ok, comment faut que j'arrose ?» Est-ce que le végétal que je veux planter là, il va bien réussir. Enfin, toi, comment aménager et créer un jardin à partir de zéro sans attendre des années ou sans risquer d'être déçu par les résultats, sans éviter toutes les erreurs. Tous ces trucs-là, ça n'existe pas. Enfin, moi, j'ai pas trouvé, en fait. Et il y a clairement énormément de gens, c'est en plein boom, même en France. Tu vois, c'est un des marchés sur lesquels les gens dépensent le plus d'argent en France. Et c'est pareil dans beaucoup de pays. Voilà, les gens veulent un endroit à eux où ils se sentent bien, dont ils sont fiers, voilà, passer du temps, être content du résultat. Enfin, t'as tout plein de choses comme ça au niveau psychologique sur lesquelles tu peux jouer. Et c'est le but, c'est de cibler et de parler, s'adresser aux gens dans mes mails et dans mes argumentaires de vente, aux gens qui sont dans cet état d'esprit-là, pas juste, je sais pas, la petite grand-mère qui veut planter un géranium, toi. Forcément, elle va pas avoir besoin de ce genre de produit.
Tu penses que ça aurait été faisable de lancer un business comme ça si tu t'étais pas toi-même passionné pour le jardinage?
Chaud. La passion, c'est un peu, c'est le mot un peu casse-gueule, parce que est-ce qu'il faut être passionné de sa thématique pour réussir? Enfin, c'est toujours le débat. Si tu t'y intéresses pas, si t'as pas envie de chercher toi-même des solutions, comment tu veux créer des mails pertinents? Comment tu veux chercher ce qui se passe dans la tête des gens, connaître suffisamment ton marché pour créer des argumentaires ou des mails qui font mouche et qui appuient vraiment sur leurs émotions, leur psychologie, qui leur donnent envie de passer à l'action? Comment tu peux donner dans tes formations après du contenu pertinent qui les aide vraiment, contrairement à ce qu'ils trouvent ou à ce qu'ils trouvent pas justement en ligne? Non, t'as besoin de t'y intéresser, c'est clair, quoi. Développer une expertise. Après, passion ou pas passion, je sais pas si le mot est vraiment pertinent, quoi, mais...
Ouais, c'est pas non plus nécessairement le terme que j'utiliserais, notamment parce que l'intérêt pour un truc se développe aussi au fil du temps, où plus t'apprends, plus tu deviens intéressé par le truc, et quand tu parles juste de passion, les gens se disent, ouais, ok, ma passion, c'est de jouer aux jeux vidéo, et à la limite, faire du yoga, tu vois, mais c'est assez limité le nombre de passions que les gens peuvent avoir. Et la plupart des business, enfin, même si tu t'allais te dire ma passion c'est le copywriting, en soi c'est un peu bizarre, tu vois. Tu dis quand t'étais gamin, t'étais passionné par le copywriting, ça s'est passé comment, tu vois? C'est plus qu'à un moment donné, t'as eu un intérêt, t'as trouvé ça fascinant, et à force de t'y intéresser, t'as découvert que cet oignon-là avait tellement de couches différentes que tu développes une expertise dedans. Mais est-ce que c'était une passion au départ, ou est-ce que c'était juste un intérêt que t'as creusé un petit peu? Pour cette raison aussi, j'ai un bouquin que j'adore qui s'appelle So Good They Can't Ignore You, qui parle de, en gros, si tu veux, il ne faut pas suivre ta passion, il faut développer certaines compétences, parce que quand tu développes des compétences, quand tu deviens super bon dans quelque chose, fondamentalement, ça devient beaucoup plus kiffant de le faire, quoi. Et si tu es vachement bon en copywriting, ça devient juste kiffant parce que tu comprends toutes les pièces du puzzle et tu peux t'amuser à le faire.
Tous les gens qui débutent, ou toi, t'as énormément de gens, t'as dû avoir la question 50 000 fois aussi, j'ai pas de passion, j'ai pas d'expertise, comment faire? Il y a un moment où effectivement tu t'intéresses à quelque chose, et ça a pas forcément duré des années, tu vois. Moi je suis pas au taquet maintenant, cette année, je me suis quasiment pas occupé de mon jardin, là, c'est la première année où, bon, j'ai vraiment pas eu le temps, je voyageais toujours à droite à gauche. C'est pas que le truc m'intéresse plus, mais je suis pas autant passionné que je l'étais quand je me suis installé dans cette baraque-là, il y a trois ans et demi. Où là, pendant 2 ans, j'étais au taquet. Toi, je bouffais, je cherchais de l'information, je commandais des livres, j'essayais de trouver tout ce qui pouvait m'aider, quoi. J'étais vraiment passionné par le truc. Et finalement, c'est ça qui m'a permis d'isoler les besoins et de trouver cette idée marketing-là et cette idée de business. Et puis de créer tout le contenu maintenant que j'utilise. Enfin, maintenant que j'utilise plus, parce que tout est automatisé depuis l'an dernier. Ça a été fait en quelques mois seulement. Mais ouais, on peut s'intéresser ou se passionner pour un truc pendant un moment. Et après, ça reste. Toi, on se découvre des centres d'intérêt assez régulièrement, où on est au taquet pendant un moment. Généralement, on dit que les gens s'intéressent 6 mois à fond à une thématique avant de passer à autre chose. Enfin, c'est des trucs qu'on lit assez régulièrement. Sur des thématiques comme le marketing pour les entrepreneurs, c'est différent parce que tu en as tellement besoin que tu vas suivre le truc beaucoup plus longtemps. Mais c'est vrai qu'on a des passions passagères comme ça, ou des centres d'intérêt passagers. Mais est-ce que ça ne veut pas dire que tout ce qu'on a appris pendant ce temps-là, c'est pas suffisant pour aider les gens à résoudre leurs problèmes et à lancer un bon business? Je pense que c'est pas un souci, la preuve.
Donc t'as écrit 180 emails, ces emails quotidiens?
Ouais, 180 emails qui font quelques. J'en écris plus que ça, en fait. Mais après, bah, j'ai testé une séquence, fait pas mal de media buying pour remplir ma liste.
Voilà. Quand tu dis media buying, c'est Facebook ?
Non, media buying, c'est faire appel à un media buyer qui commande du trafic pour moi selon mes critères et mon ciblage précis pour les amener vers une landing page.
Mais du coup, c'est des réseaux de pub genre Taboola, etc.
Même pas, à vrai dire. C'est des media buyers indépendants.
Ils achètent directement des pubs sur des sites. Ils vont voir un blog, jardinage ouais, facile.
T'as des sondages en ligne, t'as des bannières sur site, enfin t'as tout plein de trucs. Moi, mon rêve en fait, je pense que c'est le Graal, toi, c'est ce qui fait rêver tous les gens qui bossent sur le web, c'était de monter un projet vraiment, vraiment 100% automatique. Le truc dont t'as pu. Toi, on nous pitch toujours monte ton tunnel de vente en automatique, ton site en automatique, mais quand tu réfléchis, tous les systèmes qu'on nous donne là-dessus, c'est vraiment des trucs où tu as toujours des choses dont tu dois t'occuper, notamment tes campagnes de pub sur Facebook. Toi, faut toujours que tu les... Même si tu as créé tout le contenu, même si tu as créé tous les produits, même si tu as tout automatisé dans un autorépondeur, des systèmes de retargeting, enfin tout ce que tu veux, tu es quand même obligé de suivre toute la partie acquisition de trafic. Donc pour moi, c'est pas un projet automatique, il n'est pas automatique tant que tu as des choses à faire dessus. Et pendant des années, je me suis retourné le crâne là-dessus jusqu'à trouver ce système-là qui fonctionne très bien.
Mais du coup, la solution, c'est de recruter quelqu'un pour gérer ton media buying.
Bah en fait, c'est des prestataires externes. C'est quelqu'un dont c'est le job et tu lui files des coms sur les ventes en fait. Donc il se charge de ça pour toi. Toi, t'as juste à suivre tes chiffres de vente. Dire bah voilà, ce mois-ci ou cette semaine, je veux tant de, enfin, c'est plutôt par mois maintenant, voilà, je veux tant de leads jusqu'à tel tarif, et puis c'est le boulot du mec d'aller te les chercher.
Et tu disais tout à l'heure que tu avais écrit plus de mails, que tu avais testé, c'est quoi ton processus là-dessus pour optimiser une séquence email? Comment est-ce que tu détermines les mails qui fonctionnent ou pas?
Alors, faut faire gaffe à un truc, notamment, toi, si tu mets un lien de tracking, toi, par exemple, tu vas créer une séquence de 100 mails, tu vas acheter pas mal de trafic pour tester, enfin, au début, pas trop, parce que tu testes, mais dès que ça commence à marcher, tu ouvres le robinet à fond, hein, forcément. Mais l'erreur, si tu mets un lien de tracking dans chaque mail, ça peut être un petit peu traître. Pourquoi? Parce que vu que tu envoies un mail aux gens chaque jour, c'est pas forcément, surtout avec mes méthodes d'emailing, c'est pas forcément parce qu'ils achètent via le lien de tracking du mail 37 de la séquence que c'est ce mail-là qui est forcément meilleur. C'est vraiment un processus. C'est que tu les convaincs à l'usure. Moi, mes méthodes fonctionnent énormément là-dessus. Tisser une relation de taré, vraiment les motiver, vraiment leur montrer qu'eux aussi peuvent y arriver, vraiment leur montrer dans mes mails des erreurs à éviter, des leçons. Faire ça de façon mélanger information et divertissement pour que ça soit agréable à lire et qu'on ait envie de lire tous mes mails. Toi, les rendre accros aux mails dans un premier temps, ce qui nous donne du temps pour convaincre les gens derrière. Ça, c'est vraiment ce que je fais depuis des années dans mes mails sur Lifestylers pour mes clients, etc.
Pour toi, le fait que ça soit quotidien, c'est vraiment indispensable à la méthode ou est-ce que c'est juste pour augmenter la fréquence?
Si t'es la personne que les gens adorent lire, même toi t'arrives au point où le titre de ton mail ils s'en foutent, ils cliquent juste parce que c'est toi et qu'ils savent qu'ils vont avoir un mail qui est à la fois intéressant mais qui peut être aussi être surprenant, un coup trash, un coup drôle, peu importe, mais toi un truc plaisant à lire, un truc qui soit pas de l'information pure et dure en mode tuto, en mode chiant quoi, voilà, du contenu Je pense que ma plus grosse révélation de ces dernières années, c'est à quel point le contenu où on t'enseigne de façon pure et dure fonctionne nettement moins, justement, que de mélanger l'information à toute petite dose dans un truc plus divertissant. Ça change tout, parce que les gens, ils ont plaisir à te lire tous les jours. Ils se demandent, tiens, avec quoi il va arriver encore aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il va bien pouvoir me raconter? Et juste parce que c'est toi, ils vont continuer à ouvrir. Limite, ils se créent un fichier où ils mettent tous tes mails, toi, pour pouvoir les relire.
Mais par exemple, si tu voulais faire un email hebdomadaire, est-ce que ça serait fondamentalement inefficace, tu vois? Est-ce que la fréquence serait pas suffisante si tu faisais la même chose, mais dans un email hebdo, par exemple? Est-ce que le côté quotidien, c'est là où vraiment ça fait la différence?
Ah ouais, ça fait toute la diff, parce que tu tisses une relation, t'es la première personne à qui les gens vont penser s'ils ont un problème à résoudre sur ta thématique, si t'es plus présent que les autres. Si tu tisses une meilleure relation que les les autres formateurs ou les autres experts, si tu leur prouves tous les jours que tu es capable de les aider, si tu apprécies en tant que personne, s'ils aiment la façon dont tu leur parles, dont tu expliques les choses. Enfin, ça change tout, à mon sens, en termes... Moi, je m'en suis rendu compte, voilà, pour tous les... Que ce soit pour le... Toi, tu prends les business dont je me charge du marketing depuis des années pour mes clients. Dès qu'on est passé d'un mail tous les deux ou trois mails par semaine au mailing quotidien, enfin au moins du lundi au vendredi, comme je fais sur Lifestylers, en fait, pareil, on a explosé nos résultats. Tout tient dans la relation que tu tisses avec eux, dans le fait, tout simplement, de commencer par les rendre accros. Tu te donnes du temps pour vendre si tu fais ça. Il y a tellement de mails qu'on reçoit où c'est en mode offre super agressive, tiens, achète mon truc, il y a une promo jusqu'à demain soir, mais il n'y a pas une relation qui est tissée, qui est du même acabit du tout. Quand tu arrives à rendre, simplement à donner envie d'ouvrir aux gens, d'ouvrir tes mails tous les jours, juste pour qu'ils voient ce que tu vas bien pouvoir raconter, à la limite, si tu ne fais pas la vente la première semaine, qu'est-ce que tu t'en fous? Tu sais que les gens, ils vont finir par acheter un jour ou l'autre s'ils ont vraiment besoin de ton truc. Et ils vont acheter ton truc à toi et pas celui de quelqu'un d'autre si tu utilises bien les méthodes. C'est là-dessus où ça change toute la donne. Et où finalement, tu te retrouves à vendre tous les jours de l'année et à exploser des niveaux de CA et atteindre des niveaux hors normes.
C'est quoi un bon taux d'ouverture sur un email quotidien?
Franchement, je t'avoue un truc. Je ne regarde jamais les taux d'ouverture. Parce que je m'en fous complètement. Je te donne un exemple pour t'expliquer pourquoi. Imagine sur le marketing, je fais un truc complètement différent un jour et j'apprends aux gens, comment augmenter leur vente avec du tracking, par exemple. On reprend l'exemple. Et je rends ça clair dans mon mail. Toi, je le mets, généralement, c'est pas ce qu'il faut faire, mais ça dépend. Je mets clairement dans le titre de mon mail que c'est un mail sur le tracking. Et je vais proposer une formation sur le tracking derrière. C'est un exemple, hein. C'est juste parce que... voilà. Forcément, il y a beaucoup moins de gens en proportion que d'habitude sur ma liste qui va ouvrir ça. Parce que le tracking, ça intéresse pas tout le monde. Ça intéresse pas tous les entrepreneurs. Ils ont pas tous envie de faire ça. Certains, c'est trop technique. Certains, ça correspond pas à leur façon de travailler. Donc forcément, je vais avoir un taux d'ouverture tout pourri par rapport à d'autres mails si je fais ça. Est-ce que ça veut dire derrière que le taux de clic vers ma page de vente et le niveau de vente va pas être bon, voire supérieur à d'autres mails que je fais? Carrément pas. Parce que si je propose une solution qui intéresse à fond une partie de ma liste, uniquement les gens intéressés par le tracking, je vais très très bien vendre avec ce mail-là. Mais le taux d'ouverture, il sera très bas. Mais quelque part, qu'est-ce que je m'en fous? Le but, c'est de vendre.
Mais disons qu'en moyenne, si tu calcules ça sur tous les mails que tu envoies dans le mois, est-ce que tu as un benchmark? Mettons, en fait, la raison pour laquelle j'ai réfléchi, c'est parce que, imagine, tu arrives sur un nouveau marché, tu as un nouveau client et cette personne commence à faire des mails quotidiens. Et à un moment donné, tu te dis, ça ne marche pas trop là, faut qu'on diagnostique, tu vois. Comment est-ce que tu diagnostiques, par exemple, le taux d'ouverture? Parce que moi, j'ai une bonne idée d'un taux d'ouverture que j'attendrais en général aux alentours de 30%, mais j'envoie assez peu de mails. Je serais intéressé de savoir comment est-ce que toi, tu le diagnostiques. En gros, je sais que si mon email il est vachement en dessous de ça, c'est probablement que mon titre et mon accroche n'étaient pas terribles. Si le taux d'ouverture est bien, mais que les gens ne cliquent pas, si mon appel à l'action n'est pas bon, et si les gens cliquent mais n'achètent pas derrière, c'est que mon offre derrière n'était pas bonne, ou ma page de vente avait un problème. Tu vois, parce que la manière dont j'y réfléchis, c'est, mettons que moi, je me lance à faire des emails quotidiens, quel taux d'ouverture moyen est-ce que je devrais benchmarker pour me dire que, tiens, là, ce que j'écris, c'est intéressant et c'est vraiment kiffer les gens?
Là encore, je vais revenir sur le fait que moi, le taux d'ouverture, je ne m'y intéresse pas. Tout simplement parce que quand tu te mets à faire si tu envoies un mail par semaine et que tu te mets à faire de l'email quotidien et que tu as déjà pas mal de monde sur ta liste, forcément, il y a plein de gens pour qui ça va être trop haut, qui vont finir par se désinscrire, etc. Est-ce que c'est un problème? Absolument pas, parce que c'est des gens qui sont pas suffisamment intéressés pour être clients, pour acheter, pour aller plus loin avec toi. C'est ces gens-là qui se désinscrivent. Donc forcément, c'est aussi ces gens-là. Toi, ceux qui se désinscrivent pas, c'est aussi ceux qui cliquent moins. Donc que ta proportion de mails, ton taux d'ouverture baisse, notamment au début, les premières semaines, c'est juste normal. Est-ce que ça ne veut pas dire que tu ne vas pas plus vendre? Tu peux avoir un taux d'ouverture qui, toi, tu peux tourner à 50% de taux d'ouverture, descendre à 20 seulement, et vendre trois fois plus qu'avant. C'est clairement possible. Ça fait sens, c'est même logique, vu le type de système, vu que tu changes complètement la fréquence.
Donc si je t'écoute, le seul bon indicateur ici, ça serait les ventes.
L'indicateur number one, c'est les ventes, clairement. Et l'indicateur numéro deux, pour moi, c'est les désinscriptions. J'adore quand il y a des gens qui se désinscrivent. Ça peut paraître dingue, mais ça veut dire que simplement que j'arrive à cibler beaucoup mieux, à polariser beaucoup mieux avec mes trucs. Plus mes mails, ils sont sur mesure pour mon client idéal, plus forcément les gens qui sont arrivés là un petit peu par hasard ou parce que la landing page ou le truc offert les intéressait, ils sont inscrits, mais ils sont pas assez chauds, ils sont pas intéressés pour aller plus loin. Au bout d'un moment, naturellement, toi, ça va les saouler de recevoir un mail par jour. Donc ces gens-là vont se désinscrire. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? C'est des gens qui n'achèteraient pas de toute façon. Et si un jour, toi, ils reviennent un peu dans le game et que ça les intéresse à nouveau, ils savent, ils ont déjà eu un échantillon tel qu'ils vont se réinscrire. Ça arrive. Hein. Et là, ils vont être à même de devenir clients. Mais tant qu'ils n'étaient pas prêts, ça sert à rien d'avoir ces gens-là sur ta liste. Je préfère polariser, je préfère faire un gros écrémage et m'adresser clairement uniquement à mon client idéal parce que c'est que lui qui m'intéresse.
En lisant un peu tes mails et en regardant un peu ce que tu publies, il y a un côté où on a l'impression que tu écris un peu tes emails quotidiens et tu voyages un peu dans tous les pays du monde, en Europe de l'Est et tout, et que tu es vachement focus là-dessus. En quoi est-ce que cette perception que moi j'ai correspond? Est-ce que tu as quand même pas mal de boulot dans la journée ou est-ce que tu es vraiment uniquement focus sur ton email et c'est tout?
Une journée type, pour te donner une idée, c'est 4 mailings minimum à rédiger, hein, pour Lifestylers et 3 pour les 3 clients dont je me charge du marketing.
Donc un mailing, c'est quoi la longueur moyenne?
Moi j'ai tendance à être bavard, donc ça doit être du 400-500 mots. Même si idéalement, il faudrait faire un peu plus court. Mais tant que c'est intéressant, la longueur n'affecte pas.
Et combien de temps ça te prend d'écrire entre 400 et 500 mots?
Un mail, à partir du moment où j'ai l'idée, en moyenne, je pense que je vais... Bon, en moyenne, c'est 10 minutes. Des fois, je vais craquer un mail en 4 minutes, mais vraiment. Des fois, un peu plus parce que t'es dérangé ou tu commences sur un truc, ça te donne d'autres idées, ou t'édites un peu, mais généralement, c'est, voilà, moi, c'est du one-shot. Du titre à l'appel à l'action, ou en tout cas du début du mail à l'appel à l'action, je mets le titre après. En moyenne, c'est 10 minutes.
Et trouver l'idée, c'est compliqué?
L'idée, à la fin, ce qui est génial, de toute façon, t'arrives pas à écrire 4 mails par jour sur 4 business différents, sans compter les commandes de mails qu'on te fait à côté. Si tu deviens pas une machine à idées et que tu connais pas super bien l'audience à qui tu t'adresses, la thématique sur laquelle tu bosses, il se passe un truc magique avec l'email. C'est très dur à expliquer, en fait, la puissance du truc tant que tu l'as pas testé. Mais plus t'écris, plus tu trouves des idées rien qu'en écrivant. T'as des idées qui te viennent, voilà, comme pour n'importe quoi. Je sais pas, t'es sous la douche, t'es dans ta bagnole, t'écoutes de la musique, boum, t'as une idée qui vient, hop, tu le notes. Et idéalement, moi, ce que je conseille, c'est d'écrire notre mail dès qu'on a l'idée, parce que c'est chaud, c'est plus facile de bosser à l'enthousiasme comme ça. T'as une super idée, d'ailleurs, pas que pour les mails, mais pour n'importe quoi dans nos business. T'as une super idée, un truc qui t'enthousiasme. Voilà, c'est beaucoup plus facile de s'y mettre que si c'est sur ta to-do list et que tu sais que tu dois le faire après-demain à 14h, toi. Mais le simple fait d'écrire tous les jours, après aussi, t'as une interaction qui est géniale avec ta liste. Tu te retrouves à un niveau où les gens, voilà, tu reçois beaucoup de mails dans la journée, des retours sur ce que t'as dit, des questions, des machins. Et la plus, enfin voilà, trois quarts du temps, mes mails, c'est soit une question qu'on me pose, soit un témoignage, soit un truc dont j'ai discuté avec un client en coaching que je trouve intéressant de mettre en avant, soit un truc qui m'est arrivé dans la journée. Tout est transformable en un bon mailing, surtout quand tu fais de l'infotainment, comme ça, mélanger information et divertissement. Ça te permet de créer des mails qui ont des angles qui ont a priori rien à voir avec ta thématique et de lier ça avec une petite pépite, entre une erreur à éviter, une leçon, voilà, un truc digeste qui donne envie d'aller plus loin et de cliquer sur la page de vente derrière. Je te prends un exemple. Toi, j'ai passé un mois et demi en Afrique là, cet été. Donc, c'était la première fois que j'y allais. Fait pas mal de safari. Ça me branchait à fond d'aller voir les gros chats et tout ça dans la nature. Rien que d'observer ce qui se passait, ça m'a donné des tonnes d'idées de mails. Et c'est génial pour les gens parce que c'est un truc complètement décalé. Toi, tu fais pas des comparaisons entre un guépard et le marketing, généralement. Toi, les gens sont pas habitués à ça. Ça qui est génial. Après, bon, voilà, t'as pas besoin de vivre des aventures extraordinaires. Hein. Des fois, une discussion que t'as avec un client dans un coaching, ça te donne une idée de mail de fou ou je sais pas, n'importe quoi qui t'arrive dans ta vie.
Tu as déjà mis en place un autorépondeur pour Lifestylers. Pourquoi est-ce que tu continues à écrire un mail par jour si sur l'autre site, justement, tu avais un autorépondeur?
C'est pas du tout le même marché, la même thématique. Le jardinage, l'avantage, c'est que c'est evergreen, le cas de le dire, pour ceux qui connaissent le mot en anglais. On dit d'un arbuste qu'il est evergreen s'il perd pas ses feuilles l'hiver. C'est une thématique qui change pas. Le marketing, bon, moi, je choisis volontairement, juste notamment pour que les formations que je crée, toi, je puisse les revendre pendant des années sans avoir à tout changer. Toi, contrairement si tu fais un truc sur la pub Facebook ou les techniques ou rien que le Power Editor, il change tous les 4 matins, toi. J'essaye un maximum de faire des trucs evergreen, mais c'est un marché sur lequel les gens, il y a tellement, enfin, déjà, ça me passionne à un point énorme, mais t'as une marge de progression gigantesque entre le moment où tu t'intéresses au truc, le moment où tu lances ton business, le moment où t'arrives au niveau de vente que t'espérais pour pouvoir quitter ton taf, en vivre, etc., par exemple. Et puis, un business à 1 million, 2 millions, c'est apparent. Enfin, bref, peu importe le niveau de vente, finalement. Les gens que je cible, moi, ils sont vraiment passionnés par le truc. Et t'as toujours tellement à apprendre. Toi, un sujet que t'adores aussi, le copywriting. T'as beau avoir, je sais pas, t'être formé 3 ans comme un malade mental du matin au soir sur le copywriting, tu vas toujours découvrir des nouveaux trucs. Puis c'est de la psychologie humaine aussi. T'as tellement de, comment dire, d'adaptation, de cas de figure, on en apprend tous les jours, même quand on fait ça depuis 10 ans ou 15 ans. Donc au bout du compte, t'as toujours des trucs nouveaux à partager avec les gens.
Mais quand t'écris un mail quotidien comme ça, il n'y a pas un peu un côté où t'es moins en contrôle du parcours client, puisque les gens vont rentrer à un endroit un peu random dans ta liste, quoi. Peut-être qu'ils vont rentrer au milieu du moment où t'es en train de parler de ton voyage en Afrique. Et l'avantage d'avoir un autorépondeur, c'est que tu peux créer des séquences qui prennent les gens de A à Z en passant par toutes les lettres de l'alphabet, qui construisent petit à petit ta crédibilité dans l'ordre, placent des éléments. Il y a un côté plus délibéré, plus construit si tu fais un autorépondeur. J'avais d'ailleurs vu des gens qui avaient une approche hybride. Et en fait, c'est moi ce que je faisais quand je bossais sur mon site de séduction, c'est que j'avais un autorépondeur, et une fois qu'ils avaient fini l'autorépondeur, qui était en fait une séquence qui était là pour construire certains éléments particuliers de crédibilité, de mentalité, etc. Une fois qu'ils avaient fini ça, ils arrivaient dans la liste principale. C'est une méthode un peu hybride. Donc, je suis intéressé de voir toi ta réaction par rapport à ça.
Ouais, non, c'est passionnant comme sujet, je trouve. Il y a plein de raisons à ça. Déjà, le truc, un système où tu qualifies les gens, tu vois, par exemple, ils voient tes vidéos YouTube, ensuite ils rejoignent ta mailing list, enfin ceux qui sont intéressés, ensuite ils commencent à recevoir tes mails, etc. Et seulement à un moment, peut-être, je crois que c'est ton système, il me semble, où tu les fais rentrer dans une séquence, ils sont intéressés, par exemple, je sais pas, sur la pub Facebook ou le yaourt bulgare, et là, ils commencent à recevoir des mails dédiés où tu vas leur pitcher un produit un peu comme s'ils levaient le doigt voilà, la segmentation à l'extrême.
C'est à peu près ce que je fais, ouais.
Ouais, c'est effectivement très très bon pour augmenter les conversions. Et c'est le type de choses que je faisais pour les clients dont je me chargeais du marketing avant de passer à l'emailing quotidien. C'est un peu le dernier truc, le dernier schéma, il était là-dessus. Parce que c'est ce qui me permettait d'optimiser le plus. Le problème avec ça, d'une part, je pense, c'est que tu te retrouves... Imagine quelqu'un qui est super intéressé, il a un problème. Il se retrouve à pas pouvoir acheter. Tu l'empêches d'acheter, en fait. Quelqu'un qui découvre ton taf sur Marketing Mania, ah, tiens, putain, ce que fait Stan, c'est génial. Comment je peux acheter mes trucs? Le mec, il vient de voir une vidéo de toi, il te découvre, il t'a découvert, je sais pas comment, peu importe. Il va se taper 10, 15 de tes vidéos YouTube ou de tes podcasts. Il est complètement intéressé par ce que tu fais. Il veut acheter tes formations. Tu l'empêches de le faire. Parce qu'il faut qu'il passe par tout le processus de qualification.
Pas dans ce cas-là, parce que si par exemple la personne voit la vidéo et clique sur un truc qui va l'amener sur ma formation par email, construire une audience qui achète, il va directement rentrer dans une séquence de vente pour la formation qui, si je me trompe pas, a le lien d'achat dès le jour 1, c'est pas le jour 1, c'est le jour 3. Et ensuite, une fois qu'il a fait sa séquence de vente, il va être renvoyé sur la séquence générale de bienvenue, etc. Donc, je ne l'empêche pas d'acheter s'il s'inscrit directement sur une séquence en particulier. mais il faut qu'il ait signalé son intérêt pour cette séquence.
Enfin, je schématise, hein, pour que ça soit clair pour les gens. Ouais. Mais je sais pas, le gars qui te découvre, je sais pas, il veut découvrir comment toi tu parles de pub Facebook. Enfin, je sais que tu en faisais un moment pour des clients de mémoire quand on s'était parlé il y a 3-4 ans. Il veut acheter ta formation sur la pub Facebook tout de suite parce qu'il te découvre. Il va pas forcément pouvoir le faire. Toi, en admettant qu'il regarde pas toutes les anciennes vidéos, si toi tu parles pas dans une de tes vidéos ou dans n'importe quoi qui permette aux gens de s'inscrire sur ta landing page pour recevoir ce que tu fais sur ta pub Facebook, il peut se passer quelques semaines ou quelques mois avant qu'ils puissent découvrir ce produit-là. C'est ça que je veux dire. Mmh. Après, c'est pas ton cas à toi en général, hein, moi, que je connais pas suffisamment pour. Mais je parle de ce système, de ce système-là. Un des gros trucs, c'est que ça empêche les gens, à mon sens, d'acheter au départ, au moins, tu vois.
Pour contrecarrer ça, du coup, tu as plusieurs produits et tu vas les faire systématiquement tourner dans tes emails. Donc, si je suis sur ta liste email pendant une semaine, en gros, à un moment donné, tu m'auras parlé de chaque produit.
Pas forcément de chaque, parce que je commence à en avoir des tonnes, quoi. Mais bon, par exemple, sur mon projet sur le jardinage, sur le marché US, enfin anglophone en général, j'ai 3 produits. Donc, ouais, ils entendent parler des 3 produits dès la première semaine. Sur Lifestyler, c'est impossible, parce que quand tu crées une formation par mois depuis 4 ou 5 ans, forcément, t'en as trop.
Et tu continues à les revendre tous et à chercher quand t'as un sujet. Je sais pas, t'as vu un truc sur le guépard, ça fait penser à un truc, et tu reprends ta ancienne formation et tu vas faire un mail qui est cohérent avec cette formation et qui est un call to action vers une ancienne formation.
Ouais, t'as deux. Moi, je vois deux façons de faire les choses. Soit tu te retrouves à vouloir mettre en avant une formation. Bon, bah, si t'en sors une, forcément, tu vas vouloir pitcher ta nouvelle formation. Donc voilà, c'est encore autre chose, c'est nouveau. Mais pour les anciennes formations que t'as créées dans le passé, soit tu te dis, tiens, ça serait bien que je fasse une promo là-dessus ou que je reparle de cette formation parce que ça fait longtemps et que c'est un des best-sellers. Donc voilà, c'est, et puis que ça peut intéresser les gens et les aider dans leur activité que je parle de ça. Donc du coup, tu vas te dire, tu pars finalement du produit que tu veux vendre. Et ensuite, tu fais le mail pour ramener vers la page de vente et tu mets en promo ou tu mets pas en promo, peu importe. Après, tu as aussi effectivement le côté inspiration. Tu as un truc qui t'arrive dans la journée qui te fait penser à tel truc. Tu vas écrire ton mail et naturellement, ce que tu as à dire dans le mail, ce que tu veux montrer aux gens, va amener vers le produit le plus en rapport. Et donc, du coup, bah, tu vas mettre ce produit-là en avant.
Tous tes mails ont un appel à l'action vers un produit ?
Ouais, systématiquement un appel à l'action. Tu veux... Là encore, c'est vraiment... Et là, on ne parle pas de, toi, de ton système ou de système de n'importe qui. Les gens ont un problème. Je trouve que c'est de ne pas leur rendre service que de ne pas leur dire « Tiens, si ça t'intéresse, regarde cette page ». J'ai une solution qui peut t'aider. Pour moi, c'est empêcher de vendre aux gens, de ne pas mettre un appel à l'action. Et puis, on est là pour vendre, de toute façon. Tu ne le fais pas de manière, avec un bazooka, de la vente au bazooka, ou de faire de la vente en mettant un pistolet sur la tempe des gens, en mode, si tu n'achètes pas aujourd'hui ou tout de suite, ou si tu n'achètes pas tout court, c'est les terroristes qui vont gagner. Non, le but, c'est simplement d'être suggestif. Tu fais un mail intéressant, agréable à lire, qui leur parle de leurs problèmes. Et on ne peut jamais assez parler aux gens de leurs problèmes, d'où le fait qu'envoyer beaucoup de mails ne soit pas un souci du tout. Et derrière, à la fin, c'est limite en mode, voilà, si ça t'intéresse, d'ailleurs, à ce sujet, regarde sur cette page. Ça peut être aussi soft que ça, et très souvent, c'est ce qui fonctionne le mieux, honnêtement.
Parce qu'au final, tu as juste besoin d'envoyer du trafic sur la page, et la page elle-même contient tout le pitch de vente. Donc l'email est juste là pour accrocher un intérêt et renvoyer les gens sur la page qui correspond.
Ouais, même si tu convaincs déjà dans l'email. Toi, si tu fais 3-4 mails de suite sur un produit, tes mails, ils donnent déjà envie d'avoir le produit. Donc en fait, je le vois un petit peu différemment, c'est que le mailing et la page de vente se complètent et démultiplient la force de persuasion, la force de vente, quoi. Après, j'utilise ce système-là et pourquoi il cartonne autant à un point qui me bluffe moi-même, hein. Bon, maintenant, je suis habitué, mais...
Comment est-ce que tu quantifies Carton par rapport à d'autres alternatives ?
Bah, quand tu commences à simplement changer un système qui est très automatisé, qui est très optimisé, surtout avec des séquences sur mesure, du, la segmentation sur mesure, des tests AB de partout, comme alors que les trucs que je me suis jamais fait chier à faire sur Lifestylers, faute de temps, mais forcément quand tu prends le business d'un client et que tu charges tout son marketing et que tu as pour objectif de doubler son CA à la fin de l'année, par exemple, c'est des trucs que tu mets en place et que tu... voilà. Quand tu te prends la tête à faire tout ça, ce qui est censé être a priori le best de ce que tu peux faire pour obtenir des résultats extrêmes, les meilleurs résultats possibles, où tu, vraiment tu te creuses la tête avec tout. Et puis que du jour au lendemain, tu arrêtes tout, tu te mets à balancer un mail par jour sans te prendre la tête, sans chercher à savoir d'où les gens, à quel moment les gens arrivent, à chercher à devoir manufacturer. Ah oui, attends, dans ma séquence, où effectivement, il faut d'abord que je sois crédible, il faut qu'ils apprennent à me faire confiance, il faut que j'arrive à les amener au point où il faut qu'ils pensent ça et ça pour que finalement, ils soient prêts à acheter. Parce que c'est finalement ça, créer des séquences automatiques dans la façon dont tout le monde les enseigne, ou quasiment. Ce qui est hyper dur. Alors, ce qui est hyper dur, parce qu'il faut arriver à maîtriser tout ça. Il faut déjà être un Jedi pour arriver à faire ça bien. Je dis pas que c'est impossible. Hein. Voilà, les bons marketeurs le font. Modestement, ça m'a, voilà, je faisais ça aussi. Mais qu'est-ce que c'est compliqué par rapport au tunnel de vente le plus simple du monde qui soit, qui est les gens s'inscrivent, bim, ils commencent à recevoir un mail par jour, et peu importe finalement où ils prennent le truc. Parce que de toute façon, pour vendre, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut que les gens te fassent suffisamment confiance, il faut qu'ils aient du cash pour acheter le truc, qu'ils soient convaincus eux-mêmes qu'ils ont besoin de résoudre ce problème, qu'ils aient du temps devant eux pour implémenter la solution. Voilà, il faut que ça soit suffisamment mûr dans leur tête. Plutôt que de chercher à le manufacturer de façon séquentielle et à te creuser la tête pour savoir comment faire ça, le plus simple, c'est de leur parler de leurs problèmes tous les jours jusqu'à ce que finalement ça fasse tilt. Tout bêtement. Et après, vu que tu as plusieurs produits à leur proposer, ou une offre à abonnement, le truc, il se fait extrêmement naturellement. Et les gens n'ont pas l'impression que tu leur vends, parce que justement, tu, voilà, comme un schéma, les fameux schémas de lancement orchestré à l'américaine, là où tu as vidéo 1, vidéo 2, vidéo 3, vidéo 4, et où tu vois le truc arriver à des kilomètres. Non, c'est beaucoup plus naturel, c'est smooth, ça passe tout seul. Et finalement, au bout du compte, bah, tu te retrouves, oui, pour ta question en termes de résultats. Pour le premier client pour qui je suis passé à ce système-là, quand j'ai arrêté tous les trucs optimisés et que je suis passé au mailing quotidien, on a fait direct 40%. 40% de plus. Et après, voilà, on a fait plus de fois deux.
Ok. Tout à l'heure, on était sur un sujet et on a un peu dévié, c'était la journée type. Je voudrais qu'on revienne à ça, parce que je t'avais posé d'autres questions et donc je t'avais emmené sur autre chose. Mais du coup, un des aspects qui peut être assez attractif, notamment de ce modèle, c'est que c'est beaucoup plus simple, tu sais tout de suite ce que tu as à faire et c'est assez focus. Mais du coup, je suis intéressé de voir toi, comment est-ce que tu gères une journée.
Bah, honnêtement, le seul truc qui est vraiment gravé dans le marbre, c'est les deux cafés que je bois le matin, puis après le déca, parce que trop de café, voilà. Non, honnêtement, bah, voilà, moi, je déteste les routines, donc j'ai tendance à bosser toujours différemment. Mais bon, après, toi, quand tu écris 4 mails par jour... ça m'arrive, toi, des fois, d'enchaîner 3-4 mails sur le même projet, sur le même business, parce que j'ai des idées. Des fois, je vais juste en écrire un par jour, tu vois, parce qu'il faut que je fasse mon mail. Des fois, j'ai de l'avance, des fois, j'en ai pas. Enfin, toi, il n'y a rien de gravé dans le marbre. Mais ouais, la journée type, généralement, c'est commencer par écrire des mails sur lesquels j'ai des idées. Après, généralement, en fin de matinée, la plupart des jours, j'ai du coaching, enfin, sauf le week-end. Donc, je coach mes clients. Et après, je finalise toutes les babioles que j'ai à faire. Ça peut être enregistrer ma nouvelle formation, écrire ma formation papier spéciale copywriting incluse dans mon abo, là, le Marketing Master School. Ça peut être des trucs à faire que, en plus, bah, pour le marketing de mes clients, voir avec eux ce qu'on pitch, ce qu'on vend, ce qu'on met en avant, ce genre de choses. Alors voilà, la journée type, c'est à peu près ça. Mais c'est vrai qu'il y a une journée où je vais être plus focus peut-être sur un business, sur les quatre, ou sur un produit que j'ai à faire, ou une page de vente que j'ai à faire. Mais pour les jours classiques, le schéma, il ressemble à peu près à ça.
C'est quoi l'impact de l'email quotidien sur les tarifs auxquels tu peux vendre ? Est-ce que ça a un impact sur le niveau de tarif qui est préférable pour suivre ce modèle ?
Non, je pense vraiment pas. Tu peux vendre très cher ou choisir un business model où tu vises beaucoup plus de volume et tu vends des produits... pas très cher, genre 67$ comme par produit, comme je fais sur mon projet US. Tu peux avoir c'est vraiment une question de relation, de positionnement, de ciblage, d'idées à faire passer, de persuasion, tout bêtement. Si quelqu'un qui vend, prenons l'exemple, je sais pas, d'un prestataire de service qui vend de la presta, je sais pas, à 20 000 euros le client. Forcément, si t'envoies un mail par jour comme ça, enfin, c'est comme tout, toi, tu as besoin de. T'as un taux de conversion qui est complètement différent si tu vends des produits à 27 balles, toi, à une grosse audience sur une thématique qui intéresse tout le monde ou presque. Forcément, le consultant ou le prestataire comme ça, il va faire une vente une fois tous les X, mais quand tu vois ce que lui rapporte la vente, il n'en a pas besoin de beaucoup. Mais dans les mécanismes de persuasion, dans ce que tu as à faire dans tes mails pour convaincre, pour donner envie de plus, pour absolument vouloir bosser avec toi ou acheter ton produit, ça change strictement rien en principe. Et c'est adaptable exactement tout pareil, que tu vendes de l'information, que tu vendes des produits physiques, que tu vendes du coaching, de la prestation de service, un logiciel, enfin tous les principes de persuasion, tous les principes de mailing en tant que tel fonctionnent exactement de la même manière. C'est pour ça que j'adore autant ce système, quoi.
Parce que les principes fonctionnent de la même manière, mais parfois l'exécution n'est pas adaptée pour tout. Enfin, on a mentionné deux autres modèles de vente dans le podcast jusqu'ici. Lancement orchestré. Faire un lancement orchestré pour vendre un produit à 29 euros, ce serait bizarre. Tu vois ce que je veux dire? Le format en soi n'est pas adapté à un produit comme ça, parce qu'à la limite, ton lancement serait plus long que ton produit et ça serait perturbant. Et pareil sur un truc de segmentation, d'email et tout, si tu vends un e-book à 19 euros.
Je vois pas en quoi c'est toi, je suis vraiment pas fan des lancements orchestrés en termes de stratégie marketing. Mais bon, il y a des moyens de les faire de façon détournée pour que ça ressemble pas à ça, finalement. Mais où est le problème? Même si tu as un produit à 29 balles, alors c'est sûr, si tu t'adresses à 1000 personnes, ça ne sert à rien. Mais si tu sors un nouveau produit, tu es sur une thématique où il y a du monde, où est le problème de faire un lancement orchestré pour un produit à 29 balles? Tu vas juste, si tu fais ça bien, tu vas juste en vendre carrément des tonnes par rapport à ce que tu aurais vendu avec les techniques traditionnelles, c'est tout. Je vois pas où est le souci. Le principe du lancement orchestré, bien sûr, il est fait pour faire passer des produits, des tarifs beaucoup plus chers, et parce qu'il y a beaucoup plus à convaincre, il y a beaucoup plus de choses à faire passer dans l'esprit du prospect pour qu'il soit prêt à acheter un truc de ce tarif-là. Exactement comme beaucoup de gens utilisent le webinaire pour vendre des trucs plus chers, parce que t'as beaucoup plus d'objections à casser, de freins à l'achat à casser notamment. Mais rien ne t'empêche, rien n'empêche pour un tarif plus faible. Après, la version emailing quotidien, la version de ce que je fais adaptée à un gros lancement de produit, c'est tout con. C'est juste qu'au lieu d'envoyer un mail par jour, par exemple, si tu fais un lancement sur une semaine, je l'ai fait très souvent pour des clients, quelques fois pour moi sur Lifestylers, au lieu d'envoyer simplement un mail, le lundi, je vais envoyer deux mails. Le mardi, je vais envoyer deux mails. Je vais envoyer deux mails par jour, comme ça, du lundi au vendredi. Et le samedi et le dimanche, là, ça va être full shot. Je vais pouvoir... ça m'est arrivé d'une fois, je crois, d'envoyer 11 mails sur un business, 11 mails le dimanche. Parce que ça, voilà, les bonus étaient plus accessibles et le tarif de lancement terminait à minuit. Ça cartonnait. Forcément, tu fais pas des mails en mode... attention, salut, clique sur le lien, il reste plus qu'11 heures, et puis 2 heures plus tard, attention, salut, clique sur le lien, il reste plus que 9 heures, et puis après, c'est foutu, c'est la fin du monde. Non, tu leur parles de trucs intéressants, tu casses des objections, tu prends des questions qu'on te pose, tu y réponds pour mieux montrer aux gens les bénéfices d'avoir le truc, ou ce qui les faisait peut-être hésiter, toi, ça permet de faire péter l'objection ou le frein à l'achat. Voilà, tu les mets en situation, tu les fais visualiser. Enfin bref, tu utilises les trucs dans tes mailings, les techniques de mailing classiques. Sauf que le fait d'en envoyer autant, ça permet aux gens de vraiment pas zapper et de... ils peuvent pas dire qu'ils ont manqué le truc. Les gens qui s'intéressent pas, c'est pas grave, ils vont pas cliquer, on revient à la normale dès le lendemain, dès le lundi. Mais t'exploses tes conversions.
T'as déjà essayé de délayer l'écriture de mail pour pouvoir, par exemple, prendre plus de clients?
Non. Enfin, je l'ai fait sur les pages de vente. J'ai fait 2-3 tests et j'ai arrêté.
Parce que
j'étais pas satisfait du taf fait par les. Pourtant, j'ai pas embauché n'importe qui, mais j'étais pas satisfait. C'est pas le niveau de qualité que je préfère prendre moins de monde en tant que client pour qui je me charge des mailings ou des pages de vente. Puis après, moi, je suis pas. Enfin voilà, déjà, quand tu te charges d'autant de business, après, il y a un moment où tu cherches plus à en prendre plus, quoi. Enfin, c'est ou alors tu passes dans un tout autre business model, genre monter une entreprise comme on peut l'avoir avec salariés et machin, qui n'est pas du tout un truc qui m'intéresse.
Pourquoi est-ce que ça ne t'intéresse pas?
J'ai pas envie de gérer les gens, de passer mon temps à leur dire quoi faire. À chaque fois, moi, je suis très nul avec la sous-traitance. À chaque fois que j'ai sous-traité des trucs, hormis des trucs techniques, genre installe-moi un espace membre, s'il te plaît, mets-moi ClickFunnels sur tel site, j'en ai besoin. Enfin, toi, hormis des trucs comme ça, je vais plus vite à faire les trucs moi-même. Tout ce qui est technique, généralement, j'évite parce que je suis allergique à ça. Donc, c'est pour ça que si tu veux, toi, si tu nous écoutes et que tu vas sur Lifestyler, si tu vas voir un système qui est très simple techniquement, je préfère me concentrer vraiment sur sur ce que je fais en termes de persuasion, en termes de message, en termes de tout ça, et finalement ne plus avoir à faire qu'à ça, quoi. Que ça.
Donc t'en es où au niveau de l'équipe aujourd'hui? T'as quand même des sous-traitants sur certains aspects ou rien du tout?
Sur le site anglophone, comme on disait, de Media Buyer qui m'amène les leads.
Ouais.
Et après, j'ai juste un pote que je paye pour qu'il me cale mes mails sur Lifestylers dans le blog et puis dans mon autorépondeur. Toi, j'envoie le fichier, il cale ça. Et puis après, les clients dont je me charge du marketing, ils ont déjà quelqu'un comme ça, toi, avec eux. Donc moi, je renvoie les fichiers ou les pages de vente et puis ils mettent tout en ligne. Enfin voilà, c'est pas mon job, ça. Moi, je leur fais le marketing après. Non, le seule personne avec qui je bosse, c'est Biwa, mon chat, toi, quand je suis en Bretagne, qui fait les coachings avec moi.
Comment est-ce que tu définis tes objectifs, du coup? C'est quoi ton... Comment est-ce que tu y réfléchis? C'est quoi ton processus? Est-ce que tu fais des objectifs... Ce que tu en fais, est-ce que tu fais des objectifs annuels, trimestriels? Comment est-ce que tu y réfléchis?
Pour moi ou pour mes clients?
Tu peux nous parler des deux si tu veux.
Pour mes clients, c'est eux qui ont des objectifs. Donc en gros, moi je leur dis ce qu'on peut faire. On réfléchit toujours, on se creuse toujours la tête sur des nouvelles stratégies, hein, forcément. Mais donc là, on se met d'accord sur des objectifs qui nous paraissent réalisables, puis on essaye de les exploser. Hein, c'est un peu le but tout le temps. Pour moi, vu que finalement ce que je fais sur la vie tout à l'heure, c'est qu'une part de mon activité. Je me fixe jamais d'objectifs trimestriels, machin, ça m'intéresse pas, enfin, je pense que ça me parle pas. J'essaye juste, finalement, d'augmenter ma moyenne, de toujours augmenter ma moyenne mensuelle sur les 6 derniers mois. Mais tu vois, c'est le genre de truc que je regarde 3 fois par an. Je cherche pas à faire un meilleur mois que le précédent, forcément, parce que ça va pas forcément dire grand chose en fonction.
Ouais, il y a trop de variations. Ouais.
Voilà, il y a trop de variations. Si tu sors un produit qui cartonne en début de mois, tu sais que tu vas pas faire autant le mois d'après, a priori, quoi, à moins d'arriver à refaire un truc qui cartonne autant. Ce qui arrive des fois, mais pas systématiquement. Après, le but, c'est pour ça que j'utilise plus une moyenne lissée. Toi. Tant que mon business en moyenne il continue d'augmenter, je suis content, ça veut dire que je fais du bon taf. Après, même s'il restait au même niveau, ça serait bien quand même. Toi.
Si ta stratégie, c'est qu'un email par jour, par exemple, quand tu as un client comme ça et que tu cherches à obtenir un certain objectif, en quoi est-ce que l'objectif informe des actions qui sont différentes? Comment est-ce que tu réfléchis à ça? Tu vois, si de toute manière, tu vas faire un email quotidien et de toute manière, tu fais déjà l'email au meilleur de ce que tu es capable, j'imagine.
Après, tu vois, la réflexion, elle est vraiment sur d'autres points qui sont finalement beaucoup plus importants, à mon sens. Ça, ça peut paraître tout bête, mais c'est le gros truc à comprendre, je pense, quand tu fais du marketing. C'est que les résultats, tu les exploses pas forcément avec le système ou la stratégie que tu utilises, surtout quand tu utilises un système extrêmement simple comme celui d'envoyer un mail par jour, mais vraiment sur la connaissance de ton marché, la connaissance de ton client idéal, vraiment creuser sur les leviers émotionnels. Le but, c'est de trouver des putains d'offres qui correspondent exactement pile à ce qu'ils veulent, quoi. Et voilà, le gros du travail, il est là, finalement. C'est sur les idées, c'est sur la recherche.
De quoi le travail, c'est sur l'offre?
C'est sur l'offre, ouais, la façon de présenter ça et sur la façon d'expliquer les choses ou de faire passer tes idées par mail pour qu'un maximum de gens achètent. C'est toujours là-dessus. Je le dis tout le temps en mode schématique. C'est pour moi quelqu'un qui est une burne en marketing, passe l'expression, mais qui connaît son audience idéale par cœur. Il va forcément sortir un produit qui va largement plus vendre que le meilleur marketeur du monde. Toi, par exemple, en Presta, comme je peux faire, comme tu fais peut-être, je ne sais plus, tu me mets sur une thématique sur laquelle j'y bip rien, qui ne m'intéresse pas et dont je ne connais absolument pas le marché, si je ne passe pas un temps fou pour connaître les trucs. Le mec qui connaît rien en marketing, mais qui connaît super bien l'audience, super bien la thématique, super bien ce que les gens veulent, il vendra plus que moi. C'est normal. Parce que le plus important, c'est tous les boutons émotionnels sur lesquels tu appuies, c'est le problème que ça résout pour les gens, mais le vrai problème que ça résout, ce qu'ils veulent vraiment, pas forcément ce qu'ils vont te dire, enfin, toute la psychologie qu'il y a derrière, Enfin voilà, tout ça, je ne vais pas détailler parce que ça durerait 3 semaines notre podcast, mais c'est tout ça qui fait la grosse différence. Plus finalement que le système, plus finalement que tout plein de trucs. Voilà, on a tendance à se prendre la tête avec des trucs qui ne sont pas le plus important finalement. Copywriting.
C'est quoi,
quelle est ta définition du copywriting?
Écrire pour vendre.
Ouais. Donc c'est quoi pour toi? Qu'est-ce que tu as à faire pour créer une page de vente qui arrache tout?
Bah, en gros, tu reprends AIDA, quoi. C'est comprendre l'intérêt de la personne, comprendre comment tu accroches leur attention, comprendre ce qu'ils veulent, ce qui les bloque, et comprendre comment ces différents éléments s'imbriquent les uns dans les autres. Ça, c'est, je pense, quelque chose sur lequel les gens ont un peu de mal, parce que quand tu leur donnes, il faut que tu fasses cette émotion, cet élément psychologique, etc. Il faut que tu arrives à tisser tout ça dans un truc qui soit cohérent. Et de préférence, moi, j'ai une préférence quand même pour... le storytelling, etc. Ce qui n'est pas forcément indispensable, mais ça te donne une bonne structure pour pouvoir tout tisser dans un système qui est cohérent. Et tu passes de l'intérêt de la personne jusqu'au moment où il a obtenu tous les éléments et il a obtenu le désir et l'envie de passer à l'action.
Et avant même, toi, de réfléchir à une histoire, à comment tu peux trouver un angle qui va énormément susciter naturellement accrocher la curiosité des gens d'entrée de jeu, parce que tu pars en mode storytelling et tu racontes une histoire, ce qui est un des meilleurs moyens de vendre, effectivement, ou de te dire, tiens, je vais utiliser la structure AIDA. Pour arriver à ça, tu fais quoi d'abord?
Recherche. Je fais énormément maintenant de sondages, je parle aux gens, je fais des appels et tout. Notamment parce que moi, je sors assez peu de produits, ce qui veut dire qu'il n'y a pas vraiment chez moi de stratégie de « on va voir si ça marche », tu vois.
Ouais.
Je vais uniquement sortir un produit quand je sais déjà qu'il marche.
Je fais une petite parenthèse avec l'email avant de continuer. C'est vrai que c'est ça qui est génial, c'est que l'email, quand on en voit un par jour, tu peux te permettre de te complètement foirer. T'apprends tous les jours.
Ouais,
c'est comme une, moi, je le vois comme une micro-page de vente qui nous permet de tester ce qui fonctionne sur les gens. Avec les gens, toi, c'est pas en mode toi, barbare, machin. Mais ça te permet de tester ce qui fonctionne et d'apprendre super, super vite. Comment vendre, ça te permet de progresser en persuasion, en copywriting super vite. Mais toi, pourquoi je t'ai posé les questions là-dessus, c'est qu'on en revient pile à ça. C'est ce que j'exprimais juste avant. Tout part de la réflexion sur le marché, la connaissance du marché et de l'offre. Le plus gros du taf, et ce qui fait la plus grosse différence au bout du compte, c'est pas de savoir si tu vas vendre par mail, un mail par jour, en webinaire, en hologramme, en ce que tu veux. C'est de trouver un truc qui intéresse encore plus les gens, parce que ça parle énormément à leur psychologie, à leurs problèmes, à leurs émotions, à ce qui se passe dans la vie en ce moment, qu'une autre offre. Et après, toi, si tu connais les mots, toi, si tu sais tout ça, si tu creuses pour trouver tout ça, tu fais ta recherche, tu jusqu'à connaître les mots qu'il a utilisés, la page de vente, elle s'écrit toute seule. Parce que tu vas juste faire en sorte de retranscrire ça d'une manière qui va vraiment leur parler. Et moi, si tu savais, les pages de vente, généralement, les structures, ça doit être pareil pour toi, quand tu fais du copywriting depuis très longtemps, les structures deviennent automatiques et tu n'y réfléchis même plus. Mais je n'utilise pas une structure type, les pages de vente peuvent être super super différents, les argumentaires, un coup, toi zapper telle étape ou machin, juste parce que ça fait sens par rapport à ce que je sais de mon marché et de ce qu'ils doivent comprendre ou de ce sur quoi je veux appuyer pour les convaincre, qu'il faut que je leur parle de ça, puis de ça, puis de ça, dans une suite logique. Mais tout part de ce travail d'offre, de connaissance de son marché, connaissance de son marché en premier, quoi. La base de tout, quoi. Le truc le plus négligé, à mon sens, de tout ce dont parlent les formateurs en marketing.
Ouais, je suis d'accord. Mais c'est vraiment un intérêt de copywriter.
Probablement, ouais, clairement. Mais pourquoi j'en parle, pourquoi j'insiste aussi souvent là-dessus dans mes mails, notamment sur Lifestylers, c'est que ça change toute la donne, ça rend tout le reste facile. Si tu sais exactement tout ça, t'as les mots. Tu sais quels mots ils utilisent, tu sais quelles questions ils se posent, tu sais quels problèmes ils ont, ça te donne tes idées de produits, ça te donne tes idées de mails, ça te donne tes idées d'exemples, ça te donne des métaphores, ça te donne des arguments, ça te donne les objections à casser, ça te donne tout. C'est comme avoir un GPS automatique, quoi. C'est le truc qui permet le plus pour moi d'exploser ses ventes. Et je pense qu'avant que quelqu'un arrive à me faire changer d'avis là-dessus, il va falloir qu'il arrive avec un sacré truc, quoi.
J'ai 3 questions que je pose à tout le monde avant de terminer les podcasts. Du coup, tu as déjà répondu vu que tu étais déjà passé, mais on va voir si peut-être que tu te souviens probablement plus de ce que tu as posé. Donc, tu auras peut-être des réponses qui sont différentes. La première question, et j'aime bien ça, c'est si tu pouvais revenir en arrière et donner un conseil à ton toi-même de 20 ans, qu'est-ce que tu lui dirais?
Ah oui, exact, je me rappelle de ça. Je crois de mémoire que tu avais dit d'être. J'avais répondu d'être 100% soi-même, je crois. Il me semble me rappeler de ça. Mon conseil d'il y a 20 ans.
T'étais où il y a 20 ans? Quand tu avais 20 ans, plutôt?
Quand ouais, j'étais pas parti vivre à l'étranger encore. Bon, je faisais la teuf à l'époque et de la zig.
Mais t'étais pas toi-même?
Oh, bah si, en version un petit peu 3D alternative certains soirs, mais ouais, si, si. Non, non, pourquoi je dis que c'est aussi important d'être soi-même, tu te sens au-delà même du toi d'être 100% toi-même dans tes mailings, dans tes vidéos, dans les podcasts, dans des interviews, dans ce que tu veux, ce qui permet bah, finalement aux gens qui accrochent, d'autant plus accrocher, et puis de pas faire un truc chiant et trop lisse, comme on voit malheureusement trop souvent. Et donc des contenus bah voilà froids qui passionnent pas les foules on va dire voilà autant faire une séparation naturelle marketing de répulsion limite pour les gens qui adhèrent pas du tout à ta tête ou à la façon dont t'expliques les choses à ton humour ou ce que tu veux mais même au-delà de ça enfin je sais pas tu vois quand t'es 100% toi-même t'es nettement plus heureux tu te prends pas la tête tout est beaucoup plus simple toi tu t'as un problème tu enfin je suis pas un gourou du dev perso donc je suis pas j'ai pas envie d'en être un, surtout pas. Mais ouais, je pense que tu te sens nettement mieux et tu fais vraiment ce qui te plaît et tu te focuses sur ce qui te plaît et sur ce que tu as envie de faire, les projets qui te branchent, les gens avec qui tu as envie de bosser. Ça, pour moi, ça englobe tout ça et bien plus encore, toi.
Est-ce que tu as un livre que tu recommandes souvent?
Oui, toujours le même, je pense. Alors, pour les gens qui veulent se lancer dans le copywriting, toujours Boron Letters de Gary Albert. C'était peut-être celui que j'avais conseillé l'autre fois, je sais plus. Parce que c'est un livre qui est génial, ça se lit comme un roman. C'est une excellente. T'apprends énormément sur la persuasion et le copywriting, déjà, et donc le marketing en général, mais sans tomber dans un truc qui est trop scientifique, qui est trop difficile à lire. Bien meilleur, ça serait pour l'extro advertising d'Eugène Schwartz. Mais tu vois, si tu commences par ça ou un bouquin un peu dans ce genre-là, voire des bouquins encore plus vieux et pas simples à lire, toi, c'est trop en mode. Bah, tu vois, c'est plus difficile d'accès. Tu commences par les Boron Letters, ça va te donner goût au truc, clairement.
Ouais, c'est un point d'entrée. Troisième question, est-ce que tu as une citation ou un proverbe qui te vient souvent à l'esprit?
Toujours le même. Celui qui renonce à devenir meilleur cesse déjà d'être bon. Et je trouve que c'est clairement un leitmotiv qui aide vraiment quand on bosse sur le web, quand on est copywriter, quand on vend des trucs. Des fois, on arrive à des niveaux de résultats. J'en discutais avec quelqu'un il n'y a pas longtemps. Une nana qui m'envoie un mail, voilà, qui est cliente chez moi, qui arrête son abonnement à mon offre à abonnement, la Marketing Master School. Parce qu'elle est, voilà, ça marche bien pour elle. Elle me le dit comme ça et elle ressent plus le besoin de. Voilà, donc, moi je cherche pas, toi, fais ce qu'elle veut, hein, ça a pas changé ma vie, une personne qui se désabonne en plus ou en moins. Toi. Mais je trouve que c'est. Enfin, toi, dès que tu commences à pas chercher, toi, toujours à t'améliorer, c'est pas que tu stagnes, c'est que tu commences à baisser en termes de qualité de ce que tu fais. C'est tellement important sur le web, notamment, de toujours amener de la fraîcheur, de toujours évoluer, de toujours surprendre les gens, que tu as besoin de toujours chercher des moyens de t'améliorer.
Il y a un aspect, moi, où j'envie les gens qui peuvent être satisfaits de là où ils en sont. J'ai l'impression qu'à chaque fois que j'ai passé un palier de succès, j'en étais déjà au point où ouais, c'est normal, tu vois. Genre, ce que je fais, c'est la base. Faut que je passe au truc suivant. J'ai déjà, au moment où j'ai atteint un objectif, oublié que c'était mon objectif.
Ouais, je pense qu'avec les années, ça devient un petit peu naturel comme type. Enfin, après, ça dépend des gens. Enfin, en tout cas, ouais, pour moi, j'ai tendance un peu à fonctionner pareil là-dessus.
C'est-à-dire.
Bah oui, enfin, que ton business. Toi, quand tu fais un truc avec régularité, on y revient. Toi, coacher des clients tous les mois, par exemple, envoyer un mail par jour. T'occuper du marketing de business, etc. voilà, tu t'es régulier, tu fais tes trucs un peu tous les jours. Alors, t'as des jours où t'es meilleur que d'autres, ça arrive de faire un truc qui marche un peu moins bien ou qui est un peu moins convaincant, peu importe. Mais toi, quand t'es régulier dans ce que tu fais et que tu cherches toujours à obtenir les meilleurs résultats possibles, après tes projets, il y a de plus en plus de gens, pardon, qui s'y intéressent, voilà, si c'est pertinent. C'est logique que tes résultats, ils augmentent, ils aillent crescendo, finalement. Peut-être pas d'un mois sur l'autre, comme on disait tout à l'heure, mais en moyenne, voilà, tu montes, tu montes, tu montes. Et au bout du compte, quand tu fais ça depuis suffisamment longtemps, enfin, voilà, c'est juste logique et tu t'y habitues. Et c'est quand ça se passe différemment, finalement, que là, tu te poses des questions. À mon sens.
Tu veux dire quand ça descend ?
Bah ouais, ou quand ça augmente plus. Quand t'es habitué à que ton truc, il augmente les résultats de ton activité, je sais pas, que ta mailing list, elle se remplisse de toujours plus en plus de monde, que tu vendes de plus en plus, ton niveau de chiffre d'affaires, il augmente à la limite même doucement, mais sûrement, toujours, en moyenne. Bah voilà, si à un moment, tu te retrouves à stagner pendant un mois ou deux, tu te dis, merde, attends, là, il y a probablement un truc qui cloche, quoi. Parce que voilà, t'as le côté, t'as toutes les actions que tu peux faire. Je sais pas, de la publicité pour remplir ta mailing list, mais après t'as le côté organique. Quand tu commences à faire des trucs bien, les gens en parlent. T'as le bouche à oreille, t'as l'effet boule de neige, t'as le fait de capitaliser parce que t'as beaucoup de produits de sortie, donc c'est facile de refaire des anciennes promos et de refaire un gros pic de vente. Ou t'as des trucs qui sont automatisés éventuellement. Enfin voilà, t'as tout ça qui rentre en ligne de compte. Donc ouais, si tu continues pas à augmenter, tu te dis. Même si finalement t'as pas tes objectifs, ils deviennent plus en termes de mode de vie ou de vie perso qu'en niveau business, parce que t'es content de tes résultats. Rien que de voir que ça augmente plus, ouais, tu te dis attends, c'est quoi le souci là ?
Du coup, on va s'arrêter là-dessus. Merci Grégory d'être passé. Est-ce que tu peux donner aux gens les liens pour te retrouver sur internet ?
Ouais, lifestylers.fr.
Cool. Merci à toi d'être passé sur l'émission.
Avec grand plaisir. Merci pour ton invite, Stan. Ciao.
Merci d'avoir été avec moi jusqu'au bout de cet épisode. Si cette approche de copywriting et de persuasion vous intéresse, j'ai un guide qui est totalement gratuit qui s'appelle le guide ultime du site persuasif qui vous explique quels sont les grands principes de persuasion qui ont été découverts par la science et comment est-ce qu'ils s'appliquent sur le web, que ce soit sur votre site web, sur vos pages de vente ou même dans votre contenu et bien sûr dans vos emails quotidiens ou non que vous allez envoyer à votre liste. Pour avoir ce guide, encore une fois, totalement gratuit, qui est une compilation de mes meilleurs conseils sur la persuasion et comment est-ce qu'il s'applique dans votre marketing, vous pouvez vous rendre à l'adresse sitepersuasif.com. Donc, c'est toutes mes meilleures techniques de persuasion tirées de la science appliquées au web marketing. Et l'adresse, encore une fois, c'est sitepersuasif.com. À la semaine prochaine.